Bonjour à toutes et à tous. J'ai cette question pour vous ce matin. À quelle occasion, récemment peut-être, ou quelque chose que vous vous rappelez à un moment donné de votre vie, est-ce que vous avez dû vous préparer pour vivre une rencontre particulière ? Peut-être était-ce une rencontre avec votre futur patron ou votre patron actuel pour une embauche ou peut-être une demande d'augmentation. Peut-être que c'était la rencontre avec une personnalité importante. Un VIP. Peut-être était-ce la rencontre avec celle ou celui qui serait votre futur conjoint, votre future conjointe. Peut-être était-ce tout simplement la rencontre avec votre banquier ou la rencontre avec le jury qui allait vous examiner pour un examen de fin d'année. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre ? Qu'est-ce qui a fait que cette rencontre soit restée mémorable ? Et peut-être que vous vous en souvenez encore aujourd'hui, si ça fait longtemps que ça s'est produit. Le texte d'aujourd'hui nous parle d'une rencontre, et pas n'importe laquelle. Dieu a donné rendez-vous avec son peuple sur le mont Sinaï. Et il avait fixé cette rencontre dans le Google Agenda de Moïse, il y a plusieurs mois auparavant, lorsqu'il avait dit à Moïse dans Exode, chapitre 3, verset 12, « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dieu a puissamment délivré son peuple de l'esclavage et de la mort, et les voici maintenant au pied de cette montagne, le mont Sinaï. Alors pourquoi est-ce que Dieu a sauvé ce peuple ? Pourquoi est-ce qu'il a délivré de cet esclavage et de la mort ? Cela nous a été partagé il y a 15 jours de cela par Brigitte, et une des raisons, c'est que Dieu va utiliser son peuple pour atteindre toutes les nations de la terre. Mais ce n'est pas la raison première. Dieu sauve son peuple, il a choisi de les sauver, il a choisi de les aimer. Et il a le désir d'établir une relation avec ce peuple. Il l'aime. Et il lui a fixé rendez-vous pour faire alliance avec lui. Et le moment de ce face-à-face est arrivé. Et si les plaies et la traversée de la mer Rouge ont été des événements très certainement mémorables pour le peuple de Dieu, ce qu'il va vivre là, au pied de cette montagne, ne le sera pas moins. Et je vous invite à la lecture d'une partie du passage de ce jour. On est maintenant dans Exode, chapitre 19. Et je vous invite à la lecture de ce passage. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras « Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. » Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple. Et le peuple lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï puisque tu nous as toi-même donné cet avertissement. Fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait la flamme de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » Le peuple restait à bonne distance, mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. J'ai une question pour vous, et je vous écoute. Si vous deviez décrire cette rencontre par un seul mot, quel est ce mot qui vous vient en tête ? Crainte. Impressionnant. Effrayant. Puissance. Tout à fait. J'ai eu récemment le privilège de découvrir le cinéma 4D. Vous savez, vous allez vous asseoir sur des sièges, les sièges, ils bougent. Vous avez l'image, vous avez le son qui est très fort. Vous avez même des fois de la fumée ou de la neige qui tombe dans la pièce. Il y a du vent, il y a de l'air qui vous souffle dessus, de l'eau qui vous gicle dessus. Un grand spectacle multisensoriel. Tous les sens sont en éveil. Et c'est ce que vit le peuple. On avait un petit peu ce son. Et je suis désolé pour le budget limité qui n'a pas permis d'avoir le feu, et même cette odeur de brûlé, de cochon grillé, on est désolé, c'était vraiment pas planifié, mais ça nous met aussi dans l'ambiance avec cette odeur. Il y avait ce feu, il y avait cette fumée, on n'a pas les moyens de faire trembler ce bâtiment, mais la montagne tremblait. Le peuple était devant un spectacle en 3D et en 4D, tous les sens étaient en éveil. Oui, Dieu veut entrer en présence de son peuple, mais sa présence est extrêmement dangereuse. En fait, tout dans ce passage, si vous l'avez remarqué, nous dit « attention, danger de mort ». Dieu le sait très bien et le peuple comprend très, très rapidement. Je relis quelques versets, chapitre 19, verset 12. « Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort ». Verset 21, « Descends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. » Verset 24, « De peur qu'il ne les frappe de mort. » Chapitre 20, verset 19, « Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourions. » Vous voyez, ce Dieu qui vient faire alliance est un Dieu totalement à part. Totalement saint. Et on a parlé de sa sainteté ce matin. Il est transcendant. Il est au-delà de tout. Il est parfait. Et il y a cette vraie tension qui est présente dans ce passage ce matin. D'un côté, cette sainteté de Dieu est excellente. Elle est tellement bonne. Mais en même temps, elle est tellement dangereuse pour quelqu'un qui n'est pas saint. Et il y a trois choses qui ressortent, trois choses qui sont nécessaires qui ressortent de ce passage pour permettre au peuple de ne pas mourir. La première chose, c'est la nécessité d'une consécration. Le peuple ne peut pas venir rencontrer ce Dieu saint à la légère. Il doit s'y préparer et il a 3 jours pour le faire. Je ne sais pas si vous avez pris 3 jours pour vous préparer à aller rencontrer votre banquier ou celle qui serait peut-être votre future conjointe ou si vous avez pris 3 jours pour vous pouponner, vous parfumer, vous maquiller pour les femmes, pour aller rencontrer votre patron pour augmenter votre salaire, pour essayer d'être pris. Mais le peuple a 3 jours. Pour se préparer et être consacré. Ce terme consacré, c'est la même racine que les mots saints et les mots sanctifiés. Le peuple, comme les prêtres parmi eux, doivent se purifier. Et ça va se manifester de 2 manières. Ils doivent laver leurs vêtements, verset 14. Vous imaginez ? Ça fait 3 mois que le peuple marche dans le désert et j'ose imaginer qu'ils ont déjà fait des lessives. Mais si ce n'est pas le cas, les amis, vous avez 3 jours pour laver votre linge, pour nettoyer tout cela. L'huile de coude a dû couler à flot. Deuxième chose, ne vous approchez d'aucune femme. Alors, ce n'est pas un propos sexiste ici, de la part de Dieu, mais c'est tout simplement une indication de dire « abstenez-vous pendant ces 3 jours, pendant ce temps de préparation, de toute relation sexuelle ». Non pas que c'est quelque chose qui est mauvais, parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a instauré. Mais on retrouve cette idée aussi dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul encourage le couple à s'abstenir pendant un temps de relations sexuelles pour le consacrer à la prière. Dieu va venir rencontrer son peuple. Et le peuple, pour cela, doit être totalement disponible, concentré sur ce moment qui arrive. Deuxième nécessité, la nécessité d'une distanciation. Je ne sais pas comment ça fait écho ce mot dans votre tête, mais moi j'ai le Covid là qui me vient en tête. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai entendu ce mot-là, la distanciation. Ça transparaît dans tout le texte. On l'a lu et relu. Dieu fixe et détermine pour son peuple des limites à ne pas franchir. Je pense que le mont Sinaï, il devait être jalonné de panneaux, de barrières, de rubans. Blanc, rouge, jaune, noir, danger de mort, ne dépassez pas cette limite. Au-delà, vous mourrez. parce que les radiations de la sainteté de Dieu sont mortelles. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un petit peu trois zones d'exposition à Dieu. Moïse, bien sûr, est celui qui va accéder au sommet de la montagne et qui va pouvoir s'approcher le plus de Dieu. Les prêtres peuvent monter un petit peu, s'approcher un peu sur les flancs de la montagne. Et puis le peuple, lui, ne doit absolument pas approcher de la montagne, il reste au pied de la montagne. Et c'est intéressant parce que on va revoir plus tard dans le livre d'Exode ces trois zones avec le tabernacle et puis plus tard avec le temple. Dieu pose des limites parce qu'il aime son peuple, parce qu'il veut le protéger. Mais à ce moment-là, le peuple mesure plus que jamais cette distance qui le sépare de ce Dieu qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte, de ce Dieu saint et ô combien redoutable. Et malgré cette consécration qui a pris 3 jours, malgré cette distance, et d'ailleurs le peuple ne veut même pas sortir de leur tente, c'est Moïse qui va aller les chercher et leur dire « Vous sortez les gars, vous allez au pied de la montagne. » Le peuple tremble de peur. Plusieurs termes sont utilisés. Le peuple tremble de peur. Le peuple est épouvanté. Le peuple est terrifié. Et Moïse leur dit quelque chose qui peut sembler contradictoire au verset 20 du chapitre 20. Il leur dit ceci, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. » Soyez sans crainte, mais ayez de la crainte. En fait, Moïse est en train de dire à ce peuple, ne craignez pas cette crainte qui se manifeste dans la présence de Dieu, parce qu'elle est normale. Et cette crainte devrait vous motiver à ne pas pécher. Il y a, dans toute la Bible, une bonne crainte de Dieu. Une crainte respectueuse de Dieu. Et cela pose la question, et je m'inclus pleinement dans cette question, de la légèreté avec laquelle nous traitons parfois, je traite parfois, le péché dans ma vie. Qu'est-ce qui me motive à ne pas pécher? Si je suis honnête avec moi-même et que j'analyse ma propre vie, je me rends compte que la première chose qui me motive à ne pas pécher, c'est bien souvent moi-même. Je ne pêche pas par crainte des conséquences pour moi. Je me sentirais tellement coupable de gâcher mon argent pour payer une amende pour excès de vitesse. Ça me ferait tellement mal au cœur. Je ne mens pas par crainte d'entacher ma réputation si quelqu'un venait à s'en apercevoir. Qu'en est-il à ce moment-là de la crainte de Dieu? À quel moment est-ce que la première chose à laquelle je pense face à la tentation, c'est si j'y cède, je vais offenser Dieu. Si je mens, si je triche, si je calomnie, si je me moque, Dieu est offensé. Et puis même, quand on a cédé à la tentation, est-ce que ce n'est pas révélateur qu'à ce moment précis, quelque chose ou quelqu'un a plus d'importance que Dieu dans ma vie? Tant pis pour l'excès de vitesse, au risque que je me fasse attraper, mais ça me permet au moins d'arriver à l'heure et de ne pas recevoir de remontrances de mes collègues de travail. Tant pis pour le mensonge. Au pire, si quelqu'un s'en aperçoit, dans le meilleur des cas, personne ne s'en apercevra et je vais pouvoir sauver ma réputation. Alors bien sûr, on le sait, des choses ont changé depuis Moïse et depuis cette rencontre dans le désert. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Et on va en parler de cette grâce et de cet émerveillement devant cette grâce de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Il est toujours aussi saint. Et cela me pose la question, en quoi mes paroles, en quoi mes choix, en quoi mon comportement sont motivés avant toute chose par cette crainte respectueuse de Dieu? En tout cas, la nécessité d'être consacré, la nécessité de garder une distance avec Dieu, mais en relief, de manière grandiose, une troisième nécessité, la nécessité d'une médiation. On le voit à travers tout ce passage, une seule personne peut s'approcher un peu plus de Dieu que toutes les autres. Il s'agit de Moïse. Et on voit que Moïse a vraiment ce rôle d'intermédiaire, de médiateur, on l'a aussi parlé ce matin, entre Dieu et le peuple. Je ne sais pas si, à l'écoute du texte, vous avez noté le nombre de fois où Moïse va monter la montagne et il va la descendre. Il monte et il descend. Il ne cesse de faire des allers-retours entre Dieu et le peuple, entre le bas et le sommet du Sinaï. On estime que Moïse avait à peu près 80 ans à ce moment-là et que la hauteur qui va monter, c'est aux alentours de 785 mètres de dénivelé. On peut tirer notre chapeau à papy Moïse. Hein. Moïse représente le peuple auprès de Dieu et il représente Dieu auprès du peuple. C'est lui qui écoute Dieu et qui doit transmettre fidèlement ses paroles. On voit aussi ce rôle de médiateur de Moïse dans le fait que c'est lui qui a la mission de consacrer le peuple de Dieu pour lui permettre de s'approcher un petit peu plus de Dieu en se rendant au pied de la montagne. Alors quelle nécessité pour nous aujourd'hui? On l'a dit, et je le redis, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours ce Dieu qui désire établir une relation avec nous. Mais ce Dieu est toujours aussi saint, toujours aussi redoutable qu'il l'était sur cette montagne. On ne peut pas s'approcher de Dieu à la légère. Nous avons tous besoin d'être consacrés, d'être purifiés. Alors, pas nos habits, pas une lessive, pas juste s'abstenir de relations ou quoi que ce soit. Non, nous avons besoin d'être purifiés dans nos cœurs. Tout comme le peuple, nous avons besoin d'un médiateur pour combler cette distance avec Dieu. Moïse était un médiateur insuffisant. Il a certainement dû être consacré comme l'ensemble du peuple. Il a pu rencontrer Dieu que au travers d'un nuage très dense. Il ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Et puis, Moïse, le médiateur, est mort aujourd'hui. Mais ce Moïse pointe vers le seul médiateur parfait que nous avons encore aujourd'hui, Jésus-Christ. Et c'est intéressant de voir dans le Nouveau Testament, qui présente la vie de Jésus, toujours sous ces deux aspects. Jésus avait les deux natures, pleinement homme, pleinement Dieu, parfaitement apte à représenter les deux parties. Et c'est intéressant dans l'évangile de Marc de voir que Jésus, à un moment donné de sa vie, va aussi gravir une montagne avec deux de ses disciples. Cette montagne aussi, à un moment donné, va être recouverte d'une nuée. Et de cette nuée, la voix de Dieu se fera aussi entendre avec ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. En Jésus, Dieu est venu sur cette terre pour vivre parmi nous. Et c'est ce que nous nous apprêtons encore à célébrer cette année avec cette période de Noël qui approche. Dieu s'est incarné. Dieu s'est fait homme. Et après sa résurrection, Jésus, l'homme parfait, s'est élevé et a traversé les nuées. Il a traversé le ciel pour accéder à la présence même de Dieu le Père. Et en Jésus, tous ceux qui croient sont amenés en présence de Dieu. La distance est comblée. Et si nous survivons à la sainteté de Dieu, c'est bien parce que Christ, notre médiateur, nous a consacrés. Son sang versé à la croix nous purifie de tout péché. Sur cette croix, Jésus a déjà été consumé par la sainteté du Père. Et un jour, quand le Seigneur Jésus reviendra, quand nous nous retrouverons dans cette présence de Dieu, la seule raison pour laquelle nous ne serons pas consumés par cette sainteté, c'est parce que Jésus, le parfait intermédiaire entre Dieu et les hommes, sera là, présent. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce qui donne toute la beauté à cet évangile, à cette bonne nouvelle, à cette grâce qu'on a aussi célébrée ce matin. C'est ce qui me remplit, moi, personnellement, d'une joie immense et profonde. Et pour toutes celles qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, seul médiateur. Oui, Dieu est saint. Et sa sainteté devrait toujours susciter une crainte respectueuse chez chacun de nous. Mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes amenés en présence de ce Dieu saint, sans plus jamais craindre de mourir. J'espère que cette joie qui est en moi est aussi en vous ce matin. J'espère que cette joie sera contagieuse tout autour de vous, tout au long de cette semaine qui arrive là où Dieu vous a placé dans vos sphères de vie. Et prions aussi en Église que Dieu se serve de cette nouvelle période de Noël et de cette joie qu'il met dans nos cœurs, pour que d'autres personnes puissent reconnaître en Jésus ce seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce seul chemin qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu. Et je pense encore à ce verset qui a été lu ce matin, qui nous permet de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. J'aimerais terminer en lisant ce passage, ce texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, et qui est un immense écho au passage qu'on a lu ce matin. Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 29. C'est l'auteur de cette lettre écrit à des chrétiens. On est bien après que Christ soit remonté au ciel, dans les débuts de l'Église. Et voilà ce que cet auteur écrit à ces chrétiens. Il dit « Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu ardent, l'obscurité, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». même Moïse n'emmenait pas large. Écoutez ce que dit cet auteur. Il dit non, 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 vous au contraire, vous chrétiens, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, écoutez de quoi ? Et des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés, il est en train de dire, de la présence de Dieu. Vous êtes déjà en présence de Dieu. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Abel avait été tué de manière injuste par son frère, et cette mort crie à la justice. Jésus est mort, et sa justice répond et pourvoit à toutes ces injustices dont nous sommes coupables. Vous sentez le contraste ? On n'a plus à avoir peur de mourir, mais la joie d'accéder à Dieu, à sa présence. Et l'auteur termine, et on termine par là, aussi par cet avertissement. Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Et Dieu nous parle encore aujourd'hui au travers de Christ et de sa parole. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux ? Ce matin encore, Dieu nous adresse, vous adresse cette invitation à se tourner vers Jésus-Christ. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume, dans d'autres versions, notre Dieu est un feu dévorant. Laissez juste une minute pour réfléchir à ce que vous avez entendu ce matin, vous placer devant le Seigneur. Et peut-être ce matin, ce qui vient, c'est cette profonde joie encore, cette profonde reconnaissance, et vous avez peut-être juste envie de dire merci à Dieu. Et peut-être ce matin, vous vous sentez aussi interpellé, vous entendez cette voix de Dieu qui vous appelle et qui vous invite à vous tourner, si ce n'est pas encore fait dans votre vie, vers ce seul médiateur, Jésus-Christ, le seul qui nous permet de nous approcher de Dieu sans crainte.